1h du matin à Kiev, 23h temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale. En direct de Paris, où il est minuit, et le journal est présenté par Christophe Drevet. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Zéphirin Quadio, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une trêve en mer Noire, c'est ce qu'ont obtenu les négociateurs américains dans les discussions sur l'Ukraine. Une trêve qui doit être étendue aux frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine et en Russie. Kiev rejette néanmoins l'idée d'une levée des sanctions contre Moscou. Les partisans de l'opposition toujours mobilisés en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul, mais les manifestations sont réprimées de plus en plus sévèrement par le régime Erdogan. Et puis les autorités de Taïwan expulsent pour la première fois plusieurs femmes chinoises. Elles sont accusées d'avoir prôné l'unification du détroit de Taïwan par la force. C'est précisément ce que menace de faire Pékin. Les discussions sur l'Ukraine en Arabie Saoudite connaissent leurs premiers résultats tangibles. Les négociateurs américains ont obtenu une trêve en mer Noire avec effet immédiat. Elle doit permettre la navigation sécurisée, notamment des bateaux commerciaux russes. Reste encore la question d'étendre cette trêve aux frappes sur les infrastructures énergétiques russes et ukrainiennes. Cette extension, bien qu'annoncée, semble conditionnée par Moscou à la levée des sanctions, notamment contre ses exportations agricoles, ce que ne souhaite évidemment pas le président ukrainien. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une trêve couvrant la mer Noire seulement entrerait en vigueur immédiatement, mais qu'il demanderait à Donald Trump davantage d'armes et de sanctions contre la Russie si Moscou venait à rompre l'accord. Plus tôt, le ministre de la Défense Roustem Oumierov avait confirmé cet accord, mais averti également que tout mouvement de navires militaires russes au-delà de l'est de la mer Noire violerait l'accord maritime et entraînerait donc des mesures ukrainiennes. Selon le président Zelensky, les deux parties s'accordent aussi pour cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques, Kiev avertissant qu'il faudra poursuivre les discussions pour garantir la sécurité de ces infrastructures régulièrement frappées par la Russie. La Russie, de son côté, confirme également cet accord sur la mer Noire qui permettra à Moscou de reprendre ses activités commerciales dans la région où l'Ukraine a enregistré certains de ses plus grands succès pendant la guerre et humilié la flotte russe de la mer Noire. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Le président ukrainien a par ailleurs affirmé que Kiev et Washington étaient d'accord pour impliquer des pays tiers dans la supervision d'une trêve entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky doit lui participer à un sommet sur l'Ukraine prévu ce jeudi à Paris, lequel visera à déterminer quels pays seront prêts à envoyer un contingent militaire en territoire ukrainien, précisément en cas de trêve avec la Russie. Le bras de fer continue en Turquie après l'arrestation mercredi dernier du leader de l'opposition Ekrem İmamoğlu. Le maire d'Istanbul a depuis été incarcéré pour corruption, ce qui a pour effet de cristalliser la colère de la rue contre le régime du président Erdogan. Des milliers de personnes se mobilisent dans plusieurs villes du pays, mais les autorités ont nettement serré la vis ces dernières heures avec près de 1500 arrestations, dont celle de plusieurs journalistes. Berk Esen est professeur de sciences politiques à l'université de Sabancı à Istanbul. Il a notamment travaillé sur le concept d'autoritarisme compétitif, qui est d'après lui la meilleure définition du régime actuel et de la pratique du pouvoir du président Erdogan. Avec l'arrestation et l'emprisonnement du maire d'Istanbul, Recep Tayyip Erdogan supprime désormais les oppositions susceptibles de le détrôner et glisse vers un type de régime qualifié d'autoritaire électif. Berk Esen.
Nous sommes face à une opération judiciaire de grande ampleur, où il n'y a aucune preuve véritablement tangible. Même ces chaînes qui travaillent aux intérêts du pouvoir ne parviennent pas à expliquer la procédure judiciaire de manière convaincante. Si cette opération est menée jusqu'au bout, la Turquie va passer à un type de régime autoritaire électif, totalement fermé et hégémonique, à l'image de pays comme la Russie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et le Venezuela. Avec cette opération judiciaire, la Turquie glisse un peu plus vers cette catégorie. Mais il y a tout de même de la contestation. C'est si la contestation retombe que la Turquie risque de devenir un régime autoritaire comme la Russie.
Des propos recueillis par notre correspondante en Turquie, Céline Pierre Magnani. En Israël, le Premier ministre Netanyahou persiste et signe. Il a annoncé lancer à partir de ce mercredi des entretiens pour remplacer le chef du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne. Une annonce qui intervient alors que la Cour suprême a finalement rejeté une requête de la procureure générale pour empêcher de tels entretiens. 5 recours ont toutefois été déposés contre cette décision de révocation de Ronen Bar. La Cour suprême suprême a donc suspendu la révocation, le temps pour elle d'examiner d'ici au 8 avril les différents recours. Un fait rarement observé à Gaza, des slogans anti-Hamas ont été scandés ce mardi dans une manifestation rassemblant plusieurs centaines de Palestiniens. Elle a eu lieu à Beit Laya, dans le nord de la bande de Gaza, pour appeler à la fin de la guerre avec Israël. C'est ce qu'indiquaient des témoins. L'armée israélienne a repris ses bombardements sur Gaza le 18 mars dernier, après 2 mois de trêve. Le bilan a déjà dépassé les 700 morts. La Syrie dénonce de son côté ce mardi une violation flagrante de sa souveraineté. 6 civils ont été tués la veille par des tirs israéliens dans le sud du pays. Et cela à la suite de ce que le ministre syrien des Affaires étrangères décrit comme une dangereuse escalade. Oriane Verdier.
Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de manière quasi quotidienne d'incursions israéliennes dans le sud du pays. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères syrien a condamné l'agression israélienne continue contre le territoire syrien qui a mené aux événements d'hier. L'armée israélienne affirme que ses soldats avaient identifié plusieurs terroristes et ouvert le feu en direction de leur position. Hier, le gouvernorat de la province de Deraa avait fait état de 5 morts après des tirs d'obus de chars israéliens qui ont pénétré selon lui sur le territoire syrien. Selon le gouverneur de la province, les violations répétées de l'armée d'occupation israélienne ont entraîné des combats entre des habitants et des soldats, ce qui a conduit à une escalade israélienne avec des tirs d'artillerie et de drones. En un peu plus de 3 mois, l'armée israélienne a également mené des centaines de frappes sur des sites militaires de l'ancien pouvoir syrien. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie s'est dit préoccupé par la volonté d'Israël de rester en Syrie, ainsi que par ses demandes de démilitarisation totale du sud du pays.
La Syrie, où les tensions communautaires ont par ailleurs fait fuir de nombreux civils, plus de 21 000 personnes ont ainsi rejoint le Liban voisin en raison des massacres qui ont eu lieu sur la côte syrienne début mars. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce mardi. Des familles entières ont été décimées lors de massacres qui ont eu lieu en marge d'affrontements armés entre milices pro et anti-régime, coûtant la vie à plus de 1 600 civils, essentiellement à la Houite. C'est ce que précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Asie, l'atmosphère continue de se dégrader autour de l'île de Taïwan. Ce territoire que la Chine entend récupérer fait régulièrement l'objet d'intimidations de la part de Pékin. Alors que les manœuvres chinoises et autres provocations ont cours presque quotidiennement, les autorités taïwanaises n'entendent pas baisser la garde. Illustration avec ces expulsions qui sonnent comme un avertissement. Les autorités taïwanaises ont pour la première fois décidé d'expulser en effet plusieurs femmes chinoises, toutes mariées à des Taïwanais. Elles sont accusées d'avoir prôné l'unification du Détroit par la force, une idée mise en avant par la Chine, mais rejetée en bloc par les Taïwanais. Ces Chinoises étaient obligées de quitter l'île au plus tard ce mardi et ne pourront pas revenir. Les précisions de Heike Schmidt.
Liu, mieux connu comme Yaya sur les réseaux sociaux, ne fait pas de secret de son envie de voir la Chine envahir Taïwan lorsqu'elle s'adresse à ses 480 000 abonnés. Peut-être nous nous réveillerons demain et le drapeau rouge aux 5 étoiles flottera partout sur l'île, se réjouit la jeune femme dans l'une de ses vidéos postées sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, tout en confiant à son public que rien que d'y penser la remplit de joie. Des propos intolérables pour les autorités taïwanaises qui accusent la jeune femme de promouvoir, je cite, « l'élimination de la souveraineté taïwanaise ». L'Agence nationale de l'immigration a annulé son visa. Liu Zhenya doit donc quitter le territoire. Son appel a été rejeté par un tribunal administratif de Taipei. Fait rare, comme elle, au moins 2 autres influenceuses mariées à des Taïwanais seront expulsées. L'une des 3 a posté ce message « Nous allons retourner en Chine avec dignité, fiers d'être des citoyennes chinoises. »
Donald Trump, dont les sorties contre ses voisins, l'Europe ou encore en direction de certains territoires convoités, continuent d'irriter. Le vice-président américain J.D. Vance a lui annoncé ce mardi qu'il se rendrait vendredi au Groenland, une annonce qui défie ouvertement le Danemark. Copenhague s'était auparavant insurgé contre la prochaine visite de responsables américains dans son territoire autonome, sur lequel Donald Trump entend mettre la main. Et puis, un mot de football, l'Argentine et le Brésil s'affrontent pour un duel au sommet en vue de leur participation pour le Mondial 2026. L'Albi Céleste pourrait valider son ticket dès ce mardi. Merci d'écouter RFI, il est 00h10 à Paris.